Constance. Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Or, c'est une magnifique définition de la foi que nous avons lue. Hein, si vous posez la question, qu'est-ce que c'est que la foi? Eh bien, vous avez la réponse. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On pourrait presque dire et traduire une preuve de celles qu'on ne voit pas. La traduction Semeur a traduit de cette manière, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère, c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. On pourrait dire aussi que c'est une tranquille et entière confiance en un Dieu d'amour, fidèle et tout-puissant. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 13:13 que ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et la charité, et que la plus grande de ces choses, c'est la charité. C'est l'amour. Dans le texte grec, vous le savez certainement, hein, je n'ai pas la prétention de vous apprendre beaucoup de choses, c'est le mot agapé, et il s'agit de l'amour au plus haut degré. C'est le mot d'amour au plus haut degré qu'il puisse exister. D'ailleurs, si vous reprenez Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. C'est cette même pensée, ce même mot d'agapé, agapao, qui est écrit. Dieu a tant aimé le monde, et vous connaissez la suite, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit, c'est-à-dire que moi, et chacun d'entre nous, hein, bien sûr, nous sommes là devant la foi. L'amour, c'est la voie par excellence, nous dit la parole de Dieu. Alors c'est sur cette voie par excellence, c'est sur cette voie, on pourrait dire, irremplaçable, que la foi va se manifester, que la foi va se saisir des richesses de la grâce de Dieu. La foi, c'est le moyen pour arriver au but. Et l'espérance, on pourrait dire une cousine de la foi, et l'espérance, c'est la vision du but. Alors, il est indispensable, il est vital, que ces trois choses qui demeurent en nous. Hein? Bon, quelqu'un va dire, moi j'ai la foi, toi t'es l'amour, et l'autre il a l'espérance, ça va pas. Ces trois choses, bien sûr, sont appelées à demeurer dans nos vies. Dieu dit, mon juste vivra par là. Mon juste. Ah. Alors, là, bien sûr, on peut déjà se poser une question. On rencontre des gens qui, et même des chrétiens quelquefois, malheureusement, qui se sentent justes par eux-mêmes. Alors, c'est ce qu'on appelle la propre justice. Ils se confient dans leurs bonnes actions, dans leurs actes, et ils ont l'impression ou le sentiment d'être justes par rapport aux autres, bien sûr. C'est la pensée, bien sûr, du publicain qui priait dans le temple et qui disait « Je te loue de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, enfin, je pense que c'est juste, injustes et adultères. » Alors, c'est vrai que l'œuvre du Saint-Esprit en nous, c'est déjà de nous pousser vers la repentance. Et pour être juste, il faut déjà, bien sûr, avoir demandé pardon au Seigneur pour ses péchés, avoir été rendu juste par le sang précieux de Christ. Certains pourraient avoir des difficultés avec le terme juste. Ils pourraient se même faire remarquer ce que disait le sage Salomon. Mais, non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pèche jamais. Oui. Mais Salomon, c'est vrai quand même qu'il vivait sous la loi. Et il est écrit quand même dans Romains chapitre 3, verset 20, « Nul ne sera rendu juste par les œuvres de la loi. » Alors je crains qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup ne savent plus ou ne savent pas ce qu'est la grâce de Dieu. Ce qu'est la grâce. Le privilège de ceux qui ont pris conscience un jour qu'ils étaient pécheurs et perdus devant la sainte loi divine et devant Dieu, le privilège de cela, c'est qu'ils se sont repentis, qu'ils ont demandé pardon à Dieu pour leurs péchés. Ils ont été conscients de leurs péchés, parce que le Saint-Esprit a agi dans leur cœur. Vous avez fait cette expérience-là, certainement, pour beaucoup d'entre nous. Beaucoup d'entre nous, au moins, ont fait cette expérience-là, de venir à Jésus-Christ humblement, humilié d'ailleurs, sentant le poids de leurs péchés. Moi, quand je me suis converti, j'ai eu l'impression qu'on avait enlevé un poids de mes épaules. Je me sentais tout à coup plus léger. Et puis la joie du Seigneur a inondé mon cœur. Vous avez fait cette expérience-là aussi. Amen. Gloire à Dieu, quelle merveilleuse expérience que de venir à Jésus et dire « Seigneur, je demande pardon. Je demande pardon, j'étais un pécheur. Mais dans ta grâce, amen, tu me pardonnes, amen. Je reçois ce pardon, je te reçois toi dans mon cœur. Gloire au Seigneur. » Alors, c'est vrai que c'est notre place que Jésus-Christ a pris à la croix. Nous le savons bien. Il a expié notre péché en mourant et en versant son précieux sang. Par la repentance et par la foi en Jésus-Christ, nous devenons des fils et des filles de Dieu. Ben, bien sûr. Dieu dit, bon juste. Pour la simple et bonne raison qu'il nous voit au travers du sang précieux de Jésus. Nous avons changé de position. Nous sommes en Jésus-Christ. C'est toute la différence parce que Christ, c'est le seul saint, c'est le seul juste, c'est le seul parfait que la terre ait porté. Et il s'est offert à notre place. Alors chaque dimanche, c'est vrai que nous rappelons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Nous prenons le pain, nous buvons la coupe selon ce qu'il a institué. Et cela nous rappelle chaque dimanche qu'il a fallu la mort du Fils de Dieu pour payer le prix de notre péché. Nous savons qu'il est mort pour nos péchés, mais qu'il est ressuscité pour notre justification, pour nous rendre justes devant Dieu. Et ça devrait nous garder, bien sûr, de l'orgueil, ça devrait nous garder dans l'humilité, de prendre toujours ce pain et ce vin chaque dimanche. Jésus a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, et il est écrit, afin que nul ne se glorifie. Afin que nul ne se glorifie, tout est grâce. Tout est grâce. Alors, est-ce qu'on est encore capable de s'émerveiller devant la grâce de Dieu? On s'habitue, et c'est la nature humaine, on s'habitue tellement vite aux bonnes choses. Cette grâce qui nous a été faite en Jésus-Christ, nous étions dans le péché, nous étions indifférents à l'œuvre de Dieu, indifférents à l'œuvre de la croix, nous étions rebelles, en quelque sorte, mais nous sommes passés par la repentance et la foi en Jésus-Christ, et Dieu nous en a sortis de là. Le sang de Christ nous a lavés, nous a purifiés, et nous a fait asseoir en Christ, dans les lieux célestes. Je ne sais pas si les chrétiens que nous sommes, dans notre vie de tous les jours, on réalise cela. Bien sûr, on a les pieds sur terre. Il vaut mieux, c'est plus prudent, on n'est pas dans un petit nuage, on est là, on a les pieds sur terre, on est conscient de ce qui s'y passe, beaucoup d'aurore, beaucoup de choses affreuses, mais notre esprit, qui a repris vie quand nous nous sommes convertis, qui a été régénéré, il est où? En Christ. Où? Au plus haut, au-dessus des anges. Réfléchissez en Christ. Hein? Vous êtes d'accord? Alors, on pourrait dire, c'est dans une position de victoire que nous sommes appelés à vivre. Amen. On n'est pas appelés à vivre par la vue, sans nos privilèges d'enfants de Dieu, dans la crainte, dans la peur, comme quantité de gens dans ce monde. On est appelé à avoir cette position de victoire sur la crainte, sur le péché. Il y avait un chant qui disait, un petit chant, c'était « La foi illumine la nuit ». Vous connaissez encore, vous vous rappelez peut-être ?« La foi bannit craintes et doutes, et tout mon cœur chante, mon âme est contente ». Amen. La foi sur tous mes ennemis me rend toujours plus que vainqueur. Alléluia. Au quel bonheur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors Dieu ordonne. Il ordonne. Mon juste vivra par la foi. Comme on dit, celui qui a été rendu juste, que Jésus et que le sang de Christ a purifié, qui a été justifié, ne peut se maintenir dans la vie véritable, dans la vie éternelle, que par la foi, que par sa foi. Alors, quelle est donc cette foi qui est nécessaire pour se maintenir dans la vie véritable, pas dans l'existence, mais dans la vie véritable et dans la vie de l'esprit? On entend parler quelquefois, très souvent d'ailleurs, de foi catholique, de foi protestante, de foi de je sais pas qui, de je sais pas quoi. Éphésiens 4:5, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, qui est Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Amen. Gloire au Seigneur. Alors la foi, la vraie, elle n'est pas innée. C'est-à-dire qu'on n'est pas avec. Ben non. elle ne vient pas de notre nature humaine. Elle est d'origine spirituelle, c'est ce que dit la parole de Dieu. Hein. Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, je vous avais dit il y a quelque temps, d'ailleurs, j'avais dû vous dire, qu'il existait sur Internet la Bible en un an. Et il vous suffit d'avoir le lien, vous appuyez dessus tous les matins, et tous les matins, pendant un quart d'heure, maximum, pas plus d'ailleurs, vous entendez la lecture de la Bible. Et c'est bien lu, hein, c'est pas mal lu, c'est très bien. C'est très bien. La foi vient de ce qu'on entend. C'est très bon d'entendre. Hein? Alors, bien sûr, ça ne vous empêche pas de rajouter, si vous en avez passé, si vous avez encore faim, d'ouvrir la Bible et de continuer à lire. Mais tous les matins, ou tous les soirs, ou en la période de la journée, vous pouvez écouter la Bible, et en écoutant ce passage, vous l'entendrez. Oh non, non, il y a un texte du Nouveau Testament, après il y a un texte de l'Ancien, après il y a un texte des Psaumes, et quelques versets du livre des Proverbes. C'est assez équilibré. Voilà, enfin, je vous le dis en passant. La foi vient de ce qu'on entend. Et on a besoin, quelquefois, et très souvent, d'entendre cette parole de Dieu. Alors, Dieu donne ce qu'il ordonne. Gloire au Seigneur. Hein, nous sommes rendus justes, non par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. Alors, il existe toutes sortes de foi ou de confiance dans ce monde, vous le savez bien, qui ne sont pas à confondre avec la foi, la vraie. Bon, il existe une foi naturelle, vous savez, vous mettez une lettre à la boîte, vous croyez qu'elle va arriver. Enfin, maintenant, on en met de moins en moins, d'ailleurs, on envoie des SMS, vous croyez que le destinataire va recevoir, et l'autre m'a envoyé un SMS, je lui ai répondu, voyons, on a discuté comme ça. Voilà, mais on l'envoie, on croit que le destinataire va recevoir. C'est la foi naturelle que tout le monde manifeste. Vous prenez le train, vous regardez destination, vous savez que vous allez arriver à Paris, et pour voir, parce que vous n'êtes pas trompé, vous êtes monté dans le bon train. Bien sûr, dans l'ascenseur, vous appuyez sur l'étage que vous voulez, et vous arrivez à l'étage choisi, enfin, en principe. Mais il existe aussi la foi des croyances, la foi des idéologies, vous savez. Il y a la foi de ceux qui se prosternent devant des statues, devant des idoles, devant des faux dieux. Savonien de Cyrano de Bergerac disait « C'est Dieu que l'homme a fait et qui n'ont pas fait l'homme ». Il y a la foi de ceux qui, religieusement, font tout et n'importe quoi parce qu'ils mettent leur confiance dans des traditions ou des commandements d'hommes. Ils ne vérifient pas dans la parole de Dieu si c'est exact. Ils pensent plaire à Dieu. Ben c'est vrai que sans la foi, sans la vraie foi, on ne peut pas plaire à Dieu. C'est écrit, hein. C'est écrit. Alors, il y a aussi, bien sûr, ceux qui tuent les autres par idéal révolutionnaire ou idéal religieux trompeur, bien sûr. Ça existe aussi. Mais il existe aussi une autre imitation, on pourrait dire, de la foi, c'est celle qui est sentimentale. C'est celle qui est sentimentale. Nous sommes appelés, c'est vrai, manifester cette foi qui a réellement cette dimension spirituelle. Mais des gens récitent des versets de la parole de Dieu, formulent des prières qui sont quelquefois que des récitations. Ce n'est pas obligatoirement du concret pour eux, c'est pas du spontané, ça ne vient pas de leur cœur. Ils le récitent, il faut l'inciter, c'est tout, on s'arrête là, mais sans participer, en quelque sorte, à ce qu'ils disent. Alors, il m'est arrivé, moi, de voir de magnifiques poésies sur l'amour de Dieu, par exemple. Ah, oh, c'est formidable. Oh, et quand on a lu ça, on se dit, mais c'est pas possible. Dieu, c'est un bon papa, quoi. Il va passer tout, il va fermer les yeux sur beaucoup de choses, quoi. Mais c'est pas ça, hein. Hein, c'est beau, on réalise très vite que c'est sentimental, c'est pas le résultat d'une connaissance, c'est pas le résultat d'une expérience, tout ça, ça se passe un peu dans les rêves. Alors, pendant nos moments de prière, on pourrait quand même aussi nous s'interroger, pendant nos moments de prière, il est important de rester dans la foi avec la vision de l'exaucement. Moi, je me souviens, un jour, quelqu'un avait prié d'une manière très positive, hein, pour demander une grâce. Et cette personne disait juste après, dans la conversation, ça n'arrivera pas. Quel dommage. Alors c'est quoi le moment de prière? Un moment de rêve? Un moment de sentimentalité? Je ne sais pas. Que le Seigneur nous fasse grâce. C'est pas normal d'endosser le dès que la réunion est finie, le vieux manteau du doute. Il faut rester dans la vision de ce que nous avons demandé. Serrer dans notre cœur ce que nous avons demandé. Tout ce que vous demanderez en mon nom. Croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Amen. Alors notre prière, ce n'est pas un moment où on rêve. C'est où on va manifester une sentimentalité romanesque. Mais c'est un moment où j'exprime ma foi, ma confiance en Dieu. C'est le moment où je suis là devant Dieu avec un cœur vrai. Avec un cœur vrai. Jésus a bien dit, les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Alors la foi, ce n'est pas une simple adhésion à une religion ou à un système. Vous le savez bien. Bon, je vous dis des choses que vous savez. J'ai pas d'illusion. Hein. Mais c'est l'adhérence. L'adhérence à une personne. C'est l'adhérence à une personne. À Jésus-Christ.
Amen.
Chouraki, d'ailleurs, j'ai remarqué qu'il avait traduit le mot grec pistis par le mot adhérence. Ce mot-là a été traduit par la foi, mais lui, il l'a traduit par adhérence. Alors la croyance, c'est de croire intellectuellement, bien sûr. Et ça, ça produit des adhésions. Mais la foi, la vraie foi, c'est de coller à Jésus-Christ et à son enseignement, et elle produit des conversions et des vies nouvelles. Et des vies nouvelles. C'est à cette condition de coller, en quelque sorte, au Seigneur Jésus lui-même, à une personne, que l'on peut demander en son nom. Hein? Jésus dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais ça va un petit peu plus loin qu'une pensée superficielle. Hein? Une parenthèse d'ailleurs, si vous avez beaucoup de choses à demander au Seigneur, on en a en général beaucoup de choses. Il faut quand même être conscient de quelque chose. C'est qu'il a tout donné. Il a tout donné pour nous. Tout. Hein? Il a donné sa vie et en retour, il attend déjà que nous lui donnions à d'autres. Ah oui, on peut toujours dire, Seigneur, donne, donne. Le Seigneur dit oui, oui, mais toi et toi, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Demander dans le nom de Jésus, ce n'est pas du tout une formule d'ailleurs, vous savez que c'est une pensée biblique. Hein. En son nom, c'est littéralement de demander en sa personne, d'être dans une relation de foi, une relation d'adhérence avec lui, et la pensée de notre identification, bien sûr, avec Christ. Il est en nous, nous sommes en lui, et nous demandons, et le Seigneur, nous avons la promesse du Seigneur, je le ferai. Je le ferai. Alors l'épître de Jacques précise que la vraie foi n'existe pas sans les œuvres, sinon elle est morte. Voilà. Mon juste vivra par la foi. Il y a une foi vivante là qui produit des actions, des actes. C'est par la foi qu'Abraham, c'est écrit hein, dans Hébreux 11, 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où aller. L'obéissance, elle est agissante. La foi, elle est agissante. Et vous savez qu'il ne suffit pas de monter dans votre auto, dans l'automobile, pour repartir. Il ne suffit pas. Le fait que ça, vous allez rester là. On va vous retrouver à la prochaine réunion devant la porte. Si vous êtes encore en vie. C'est du simple bon sens. Mais il faut mettre le moteur en route, mais avant, il faut qu'il y ait du carburant dans le réservoir. C'est certain. Hein, c'est du simple bon sens. Ça, il en est de même pour la foi. C'est la même chose. Elle est l'élément moteur qui va me faire progresser dans la mesure où elle est alimentée par la parole de Dieu. Alors, on va se mettre en route, c'est vrai, et notre foi va se traduire par des actes. Mais si la parole, elle reste, la Bible, elle reste dans le tiroir toute la semaine, si je ne l'ouvre jamais, si je ne me nourris pas de la parole de Dieu, je vais être sans force, ma foi va être anorexique, je vais pouvoir mettre le contact, le démarreur, il n'y a rien qui va se passer. Le moteur va caler, il ne va pas y avoir de carburant. Alors, dans le domaine de la foi, c'est vrai que il y a des chrétiens qui se sont arrêtés, c'est dommage. Alors, ils ont cru. Ils sont venus à la croix. Et puis, ils ont entendu la parole du Seigneur qui dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Ils sont allés jusqu'au baptême. C'est dommage parce que certains en sont restés là. Mais j'ai tout ce qu'il faut. Elle est gentille, ta femme. Non mais, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de salive, quelquefois ça cale un peu, mais je vais essayer de continuer comme ça. Hein, il est certain que il est nécessaire de se nourrir de la parole. Il est nécessaire de, bien sûr, pour celui qui veut venir à Jésus-Christ, de ne pas croire que Dieu existe seulement et que ça suffit. On a besoin de croire davantage que cette foi simpliste. C'est d'ailleurs l'objet, bien sûr, de cette méditation. Mais il faut en arriver à faire des expériences de foi. C'est ça qui est important. La foi ne doit pas rester comme cela. La foi, elle est faite là, c'est un moyen, elle est faite pour faire des expériences. Alors c'est dommage d'arrêter, dire, oh ben ça y est, moi je suis baptisé, tout va bien. Je suis sauvé, fauteuil relax, je ne bouge plus. On a besoin de progresser. Il y a tellement de richesses qui ne sont notre part en Jésus-Christ. Hein, ça, c'est le point de départ, c'est la ligne de départ, c'est pas la ligne d'arrivée, le baptême, c'est sûr. Israël, dans un premier temps, a failli, parce que là, devant les richesses du pays de Canaan, ils n'ont pas osé. C'est là que la foi a failli. Hein, ils ont tourné pendant 40 ans dans le désert. C'est terrible. Et quelquefois, il y a des chrétiens, c'est un peu ça, en les sent pas pleinement heureux. Et pourtant, ils ont un Seigneur de gloire. Ils ont toutes les richesses de Dieu en Christ. Et ils vivent dans une misère spirituelle étonnante. Que le Seigneur nous éclaire, parce que je crois que les uns et les autres ont besoin d'avoir les yeux qui s'ouvrent sur les richesses merveilleuses qui sont à notre disposition en Jésus-Christ. Nous sommes en Jésus-Christ, quelle grâce! Alors, l'apôtre Pierre nous a donné un exemple formidable. Je ne vais pas relire le texte parce que je risque d'être un peu long. Mais vous connaissez ce texte où Jésus les rejoint en marchant sur l'eau et ils ont peur, la mer est forte, il y a beaucoup de vent. Et Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi en marchant sur les eaux. Et Pierre enjambe la barque et le voilà parti marcher sur les eaux. À un moment, le vent est tellement fort, il a peur, ouf, il commence à couler, Jésus saisit par la main et lui dit, homme, de peu de foi. Pourquoi as-tu douté? Alors, Pierre savait que c'était impossible de marcher sur les eaux. Hein. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui a dit qu'il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Mais lui, il savait que c'était impossible. Alors la foi, vous voyez, c'est comme un pont. sur les flots agités de nos difficultés. C'est un pont seulement pour ceux qui enjambent la barque. Vous serez d'accord avec moi? Pas pour ceux qui restent dans la barque. Nous désirons souvent une vie chrétienne pépère. Excusez-moi l'expression. On ne voulait pas. On ne veut pas prendre de risques, hein. Dommage. Pourtant, la vie, c'est pas sans risque. Par exemple, avoir des enfants, vous croyez que c'est sans risque? Ouh! C'est une grande prise de risque. Que feront-ils de leur vie? Que seront-ils? Hein? Alors, Éphésiens 6 dit « Honore ton père et ta mère avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Mais c'est aussi, bien sûr, pour les enfants, afin qu'ils honorent le risque que leurs parents ont pris en les mettant au monde. Hein. Et oui. Là, vous voyez la foi de Pierre. Elle, non seulement elle avait des oreilles, mais elle avait une voix pour dire à Jésus, « Ordonne que j'aille vers toi. » C'est lui qui a provoqué le miracle. C'est ce qui nous manque très souvent. Nous sommes souvent que spectateurs et pas acteurs. Notre foi est statique, elle n'est pas assez agissante. Et je crois que les uns et les autres, nous avons besoin d'être humbles et de réaliser que le Seigneur attend davantage d'actes de foi dans notre vie. La foi de Pierre, c'est vrai, elle avait des oreilles exercées pour entendre au milieu de la tempête Jésus qui lui a dit « Viens ». Si le Seigneur n'avait pas dit « Viens », s'il avait enjambé la barque, il aurait coulé tout de suite. Le Seigneur lui a dit « Viens » et sur sa parole, il a marché sur les eaux. Ils ont besoin aussi d'une oreille exercée pour entendre la voix du Seigneur, hein, qui nous invite à marcher sur nos difficultés, sur nos problèmes et sur toute la puissance de l'ennemi. La foi de Pierre, elle avait les pieds aussi pour enjamber la barque en marchant sur les eaux. D'ailleurs, le mot « heureux » qui est traduit dans beaucoup de psaumes, là, « heureux », il peut être traduit par « en marche ». Rien à voir avec la politique, hein. « En marche ». D'ailleurs, le psaume, par exemple, il y a un psaume, je sais plus, c'est le psaume 84, je crois, qui dit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. En marche, littéralement, faut traduire, hein. En marche ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Ils trouvent dans leur cœur des chemins. En marche. C'est cette foi-là que nous avons besoin. Une foi qui soit en marche, qui ne soit pas statique. Alors, les réseaux sociaux, on en dit beaucoup de mal souvent, il y a tellement de bêtises qui se trimballent, et puis il y a des gens qui marquent bon, que leur petit chat est malade, ou je ne sais pas quoi. Bon. Mais les réseaux sociaux, ça peut servir aussi à beaucoup de bonnes choses. Hein. Moi, j'ai souvent annoncé l'évangile, hein, sur les réseaux sociaux. Je vais vous faire part d'une expérience. Une dame qui avait d'ailleurs un cabinet à New York, qui était héritière d'un château, qui était amie d'ailleurs avec les Chirac, c'était bon, tout un personnage. Enfin, moi, ça m'a pas inquiété, mais je lui ai annoncé l'évangile comme à toute autre personne. Hein, elle a lu la parole de Dieu. Je lui ai quand même fait remarquer que Jésus avait tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Alors cette femme-là, je ne vous ai pas tout dit, mais elle était dans une chaise roulante. Elle avait beau avoir une grosse situation, beaucoup de zéros sur son compte en banque. Ouais, elle était dans une chaise roulante. Mais un jour, elle était toute seule. Elle s'est levée de son siège par la foi en Jésus-Christ. Elle est allée faire ses commissions dans le village. Vous voyez, on peut être utile aussi sur les réseaux sociaux, quelque part, en annonçant la parole de Dieu. Les gens dans le village l'appelaient miraculé. Ils n'en revenaient pas. C'était une belle expérience, on est allé la voir, c'est assez loin de chez nous. La foi de Pierre, dans un premier temps, elle avait des yeux pour regarder vers Jésus. C'est ce qui nous est dit, c'est l'exhortation qui nous est donnée d'avoir les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, celui qui veut la porter à la perfection. Alors bien sûr, on peut se tromper. On est humain. Personne n'est parfait. Mais ça peut arriver de faire une erreur. On croit que c'est la volonté de Dieu, puis là on se plante. Mais comme Pierre, le Seigneur nous prend la main. Amen. Il a vu notre honnêteté, il a vu notre état de cœur. Le Seigneur va nous prendre la main, il ne va pas nous laisser couler. Merci Seigneur. Alors quelquefois, notre foi peut être éprouvée. Bien sûr, il y a des tempêtes dans la vie, vous le savez. Comme moi. Mais, vous savez, c'est le but du Seigneur, c'est que nous ayons une foi qui soit plus précieuse que l'or. Gloire au Seigneur. Afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alors la foi, c'est aussi un levier qui est capable de soulever les montagnes, nos montagnes de difficultés. Archimède disait, donnez-moi un point d'appui, un levier, et je soulèverai le monde. Le point d'appui, nous l'avons, c'est la parole de Dieu, ce sont les promesses du Seigneur. Le levier, nous l'avons, c'est notre foi. C'est notre foi. Tout est possible à celui qui croit. C'est écrit, hein? C'est pas moi qui le dis? Ah, pas pour moi seulement, je l'ai dit quand même. Alors voilà un vaste sujet, la foi. Nous n'avons fait que de l'effleurer, il y a d'autres choses à dire, c'est sûr. Mais nous remarquons quand même cette question de Jésus-Christ. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors nous avons besoin de nous poser des questions. On a besoin de temps en temps de nous arrêter pour nous remettre en question. Il ne faut pas rester toujours à nous regarder, il faut aussi à regarder de l'avant, mais quelquefois il faut quand même s'interroger. Quelle est ma foi? Est-ce que c'est une foi sentimentale seulement? Est-ce qu'elle est réellement accrochée à Christ et à la parole de Dieu? Une chose est certaine. Vivre par la foi, c'est d'abord avoir l'assurance de son pardon. L'assurance de son salut. L'assurance de la vie. Jean 5, 13, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Que vous sachiez, le mot est fort, que vous ayez des certitudes inébranlables. Et que vous osiez l'affirmer au monde aussi. C'est la foi, vous savez, qui s'affirme, c'est une foi qui s'affermit. Alors même, si ma foi est plus petite qu'un grain de sénévé, c'est pas gros, vivre par la foi me permet de m'approprier les promesses divines. Tout ce que Dieu a promis est devenu pour nous réalité en Jésus-Christ.
Amen.
Le pardon, la vie éternelle, la joie, la paix, le repos, la bénédiction, tout est à nous en Jésus-Christ. Et si nous l'avons accepté comme sauveur dans notre cœur, et nous sommes en lui, au-dessus de toutes les dominations, en esprit, quelle force.